Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
He made a legend out of Nigga Charlie. He made a hit out of Hammer. Now, Fred Williamson is back as Black Caesar. Black Caesar, he carved out a name for himself in the blood of his enemies. Hail Caesar, godfather of Harlem.
It's a jungle. It takes a jungle bunny to run it.
Yeah, man, like, you know.
I was born in New York City on a Monday. It seems I was out trying to shoot by Tuesday noon. All the bad cats and the bad hats doing me a real big favor. I got the bad cats and the bad hats playing it on real good. Yeah, the dime boy, give me shine, boy. Oh, yes.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale Fred Williamson, acteur noir mythique, véritable légende du cinéma bis, celui qui fut le parrain noir de Harlem dans le hit de la Blaxploitation signé Larry Cohen, sera à nos côtés durant cette émission puisqu'il a bien voulu nous accorder quelques minutes d'entretien. Nous causerons de cette légende vivante, telle qu'il se définit, avec Foxy Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx, Soul Street, la revue française consacrée à la Blaxploitation. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est disponible sur notre site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Bonjour Foxy Bronx.
Bonjour, enchanté. On va être avec vous.
Et puis, comme tu l'as dit, tu es avec nous, donc je ne suis pas seul avec notre ami rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street. Il y a avec moi deux énergumènes que vous connaissez bien. Il y en a un qui est une sorte de libraire fou, hein, on le surnomme l'homme mystère. Je vais bien sûr parler de John Ferret. Pour en savoir plus, allez sur librairiedessigne.com, la librairie compiénoise. Salut John.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Également à mes côtés dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard et qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsie, vidéotopsie.blogspot.fr et culturo.culturo.com. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas.
Bonjour à toutes, puis bon, aussi à tous, quoi.
Not me.
when you need a friend. Trouble of mine, when you need a friend, you got a trouble of mine. Ain't nobody gonna give you one thing dime, huh? Friend can be cruel sometimes, it can be sweet. What bugs a man, what hurts a man when you give him a drink, huh? Just can't get nothing to eat. That's New York City. That's New York City. New York City. 125th Street.
Ben, je suis désolé Thomas, je sais que tu nourris une grande passion pour Pam Grier, mais aujourd'hui on va parler de Fred Williamson. Voilà, autre acteur légendaire de la Blaxploitation, même s'il s'en défend un peu. Et justement, Fred Williamson, alors ça t'a étonné Thomas, hein, de savoir qu'il était né en 1935, parce que l'homme que tu as rencontré te semblait beaucoup plus jeune. Et il a été comédien, enfin il l'est encore, hein, scénariste, producteur, réalisateur, il a été footballeur vedette. Il a été architecte aussi, c'est quand même une drôle de carrière, c'est une star atypique de la série B, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, même s'il s'en est toujours défendu, ce que je disais à l'instant, hein, il est quand même devenu une star grâce au Parrain de Harlem de Larry Cohen. En quoi, selon toi, Foxy Bronx, il est une icône de la Blaxploitation, et pourquoi il s'en défend tant que ça, en fait, Fred Williamson?
Alors, il aime pas le terme Blaxploitation, déjà, comme beaucoup d'acteurs de cette époque. Il trouve ça péjoratif. Lui, il pense d'ailleurs qu'il est plus qu'un acteur de Blaxploitation, c'est qu'il dit qu'il a duré plus longtemps que les acteurs de la Blaxploitation. C'est-à-dire qu'il dit que sa carrière à lui, elle s'est étalée sur plusieurs décennies. À savoir que les figures de la Blaxploitation, c'est un mouvement qui, l'âge d'or de la Blaxploitation, c'est 71-75 à peu près, et toutes les grosses figures de la Blaxploitation, après cette période, elles ont été rayées de la carte, alors que lui, sa carrière, elle a continué, il a eu un second souffle dans les années 80 en Italie, et même aujourd'hui, il continue à faire des films. Tarantino lui a rendu plusieurs petits hommages, il a ressorti. Donc lui, déjà, il se voit au-dessus de ça. Et en plus, c'est lui qui a fait le forcing, en fait, il était footballeur, comme tu l'as dit, et il a forcé les portes d'Hollywood. Il s'est présenté au tout début de sa carrière. Il y avait une série de télé à succès qui s'appelait Julia. C'était la première série de télé où il y avait une femme noire en vedette, c'était Diane Carroll. Et lui, donc, il est arrivé, il était voir les producteurs de cette série, il a dit: bon, mais moi, dans cette série, Julia, elle change de petite amie tous les épisodes, et moi, je me propose, je serai le petit ami récurrent de cette série. Donc, il a vendu son personnage. Et donc, suite à ça, après, il a enchaîné sur des films. Et son but à lui, c'était de s'autoproduire derrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait 3-4 films pour Hollywood, c'était de faire les films par lui-même, de se produire, de financer ses films, d'avoir sa petite boîte de prod, qui s'appelait Po'Boy Productions, et d'être autonome, quoi. Et c'est un des seuls, voire même le seul, qui a pu faire ça dans le... sur cette période du mouvement Blaxploitation.
Peut-être aussi que c'est dû à son parcours atypique, c'est le fait qu'il ait fait des études, qu'il était à la fois donc architecte, footballeur. Pourtant, on est d'accord, c'est vraiment une. Enfin, je pense que tu partages cet avis. C'est vraiment un acteur mythique. Qui est, bien qu'il n'ait pas énormément tourné d'ailleurs, enfin, il a fait un peu de ce qu'on appelle effectivement péjorativement Blaxploitation, mais qui a tourné, tu l'as rappelé, dans plein de films, dans plein de genres, mais il reste quand même une véritable star liée au genre. Hein. Les Black Caesar, c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire de la Blaxploitation.
Ouais, alors son parcours, en fait, moi, il est similaire à pas mal d'autres acteurs du mouvement. C'est... finalement, footballeur, c'est pas une si grosse exception que ça, parce que Jim Brown, l'autre grosse star masculine, bon, Blaxploitation, c'est un des footballeurs les plus connus aux États-Unis. Bernie Cazell l'a été aussi. On a eu pas mal de sportifs, hein, genre Jim Kelly, qui était tennisman et karatéka. Donc sa carrière avant le cinéma, je trouve qu'elle est assez similaire. La différence, c'est que lui a fait le forcing. Il a été autant Jim Brown, il a été dragué pour devenir acteur. C'est les producteurs qui sont allés vers lui. Et Jim Brown, à un moment, il a préféré dire bon, moi, je privilégie d'abord ma carrière de football et c'est quand je serai à la retraite. Autant Fred Williamson, qui était un peu moins connu, c'est lui qui a fait le forcing, qui voulait. Il y a ce truc de vouloir être le numéro un, quoi. D'ailleurs, il dit souvent dans ses films, moi, j'ai besoin d'avoir la fille, je ne meurs pas. Enfin, il imposait ses conditions à Hollywood pour être le number one.
Ouais, il a une certaine coolitude, on va dire, effectivement. Puis ça dénote aussi une forte personnalité d'aller comme ça frapper à la porte des producteurs. Mais bon, avant Le Parrain de Harlem, il y a un film en 72 qui est un peu connu quand même, c'est The Legend of Nigger Charlie, qui connaîtra une suite d'ailleurs, et c'est un film dans lequel il débute une collaboration, alors pour le coup avec un autre acteur qui n'a pas trop un physique de lui sorti d'une équipe de foot, c'est Dorville Martin. Charlie, here's my name. And I ride Western Plains. Fighting to survive, and I'm riding the trail of life. Nigga Charlie, 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 nigga Charlie. Black is what I am. White folks seem to think that that's a shame. All this hate I have to face. Écoutez Foxy Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street, nous parler de Fred Williamson. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Dorville Martin et le duo qu'il forme avec Fred Williamson? Parce que visiblement, les deux hommes s'apprécient. En tout cas, Fred Williamson appréciait travailler avec Dorville Martin.
Ouais, c'est un duo assez étrange. Dorville Martin, c'est un peu le faire-valoir de Fred Williamson. Effectivement, ils ont fait un paquet de films ensemble. Alors c'est un gars qui a en plus un parcours assez atypique. Il a réalisé le premier Dolemite, le film avec Rudy Raymour. Et moi, je crois qu'ils ont fait au moins une vingtaine de films ensemble. Donc ça démontre bien comment ils étaient attachés l'un et l'autre.
Eh bien justement, nous allons écouter Fred Williamson qui nous parle de sa collaboration avec Derville Martin. Tout de suite, Fred Williamson au micro de Culture Prohibée.
Derville Martin, c'était le collaborateur idéal pour moi. C'était une relation remarquable. J'apportais l'action et il apportait la comédie. Il atténuait le baiser de la mort qu'il y avait dans mes scènes d'action en y apportant un humour qui était à l'opposé de ma personnalité. On formait une excellente équipe et j'ai été anéanti quand il est mort.
Autre collaboration de Fred Williamson, c'est une collaboration avec le légendaire Jack Arnold, le réalisateur de L'étrange créature du lac noir, d'une balle signée X. Il paraît, selon certains, que c'est même avec Arnold que Williamson commence à toucher de la mise en scène sur Black Eye en 1974 et Boss Nigger, dont tu parlais à l'instant, en 1975. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux films, Black Eye et Boss Nigger, et puis le travail avec Jack Arnold, parce qu'en plus, c'est des films très intéressants, ce sont vraiment des bons films.
Eh bien, Fred Williamson dit même plus, c'est qu'il dit que sur Boss Nigger, il dit ça dans plusieurs interviews, il dit que en fait, Jack Arnold était trop âgé pour tourner correctement et que par moments, c'est lui carrément qui l'a remplacé derrière la caméra. Et donc, il prétend que qu'il a un petit peu sauvé le film par moments. Mais en même temps, il dit aussi qu'effectivement, il a appris pas mal de choses de Jack Arnold sur le tournage des deux films. C'est comme ça qu'il a pu, derrière lui, enchaîner, tourner ses propres films. Moi, j'ai une petite préférence sur les deux films, je te cache pas, pour Black Eye. Je trouve que c'est vraiment un film de détective à l'ancienne qui rend hommage au personnage de Humphrey Bogart. J'aime beaucoup ce film, pour moi, c'est un des meilleurs. Et un des plus méconnus aussi, Fred Williamson, film de Fred Williamson des années 70.
Et bien nous allons écouter tout de suite Fred Williamson qui nous parle de son travail avec Jack Arnold.
Jack Arnold a été engagé par les gens qui ont mis l'argent pour faire le film. Ce n'était pas mon premier choix car il était plutôt vieux et il bougeait assez lentement. Je l'ai accepté en tant que réalisateur en sachant que c'est moi qui allais finir par réaliser le film. Et c'est ce qui s'est passé.
Tu l'as un peu abordé tout à l'heure, Fred Williamson, entre 1976 et 2003, il réalise et produit plus d'une vingtaine de films. Quel regard toi tu portes sur son travail, qui est un travail souvent généreux, mais bon aussi on va pas se mentir, il y a souvent pas mal d'erreurs techniques dans ses films. Bien sûr c'est des tout petits budgets, mais je me rappelle des micros, des perches dans les cas de justiciers par exemple qui apparaissent, des choses comme ça. Mais pourtant Fred Williamson il va tenir bon et il va quand même une vingtaine de productions, réalisations, c'est quand même pas rien dans une carrière. Quel regard toi donc tu portes sur cette filmographie là, cette partie de sa filmo?
Bon, je vais pas te cacher que pour moi, il y a un côté franchement nanar. C'est-à-dire que ça, il y a passé de production quand même assez avec des moyens, quoi, les films hollywoodiens qu'il a pu faire, et il y a une espèce de casseur net. C'est-à-dire qu'il commence à faire des films au milieu des années 70, et je crois que son premier film c'est 75. Il enchaînait pas mal de polars. Il a un personnage qui revient souvent, c'est Jesse Crowder. Il y a un petit côté, moi ça me fait penser un peu au film Philippin de la même époque, où c'est franchement fauché. D'ailleurs, il y a ce personnage de Jesse Crowder, je mets une parenthèse, mais il apparaît dans un film, je crois que c'est une coprode philippine qui s'appelle Blind Rage. Qui est aussi c'est un film qui montre un braquage de banque par un gang d'aveugles avec justement donc ce personnage créé par Fred Williamson, Jesse Crowder. C'est pas des films c'est pas des films d'un grand niveau. Il y a souvent de bonnes BO. Il fait appel par relation à des artistes du New Soul Funk. Donc ce niveau-là, ce côté-là est respecté dans Blaxploitation, c'est que souvent dans les films d'exploitation, on a des bonnes BO, mais bon, lui, il continue à maintenir cette tradition. Après, les films, c'est pas des gros chefs-d'œuvre, effectivement. Il y en a un ou deux qui sortent, qui sont au-dessus du haut. Il y a Une belle journée, No Way Back, Mean Johnny Barrows. Pour moi, ça fait partie des meilleurs. Et bon, après, il y en a fait qui sont franchement pas bons du tout, quoi.
Bah, on va écouter tout de suite Fred Williamson qui revient sur son activité de producteur et de réalisateur.
J'ai réalisé et produit 25 films et j'en ai écrit une vingtaine. Hollywood ne comprend pas qu'il y a un marché pour les Noirs. Ils continuent de le rater. Hollywood pense que si tu dépenses beaucoup d'argent, tu peux faire en sorte que les gens aillent voir le film. Mais si tu leur donnes quelque chose qui vaut le coup d'être vu, qu'ils aiment, ils viendront. Si on donne un bon film aux gens, ils iront le voir. Vous avez réalisé en 1974 Les Démolisseurs avec Jim Brown et Jim Kelly. Vous y affrontez un suprémaciste blanc. Que pouvez-vous nous dire à propos de tout ça? C'était le bon moment pour réunir trois mecs très connus à leur façon. On était tous des stars de films d'action. Donc ils ont décidé de faire un très bon film d'action. Et ils nous ont mis dans le même film. C'était très intelligent. Ils ont mis Jim Kelly, Fred Williamson et Jim Brown dans le même film. Et c'est devenu un succès populaire.
Like the chance action, they will always be around. Get rid of one, here come another.
vous écoutez Culture Prohibée spécial Fred Williamson. À l'instant, Fred Williamson parlait de ses activités de producteur, de réalisateur. Il nous parlait de Free the Hard Way, les démolisseurs. Il y partageait la vedette avec Jim Brown, Jim Kelly, dont tu as parlé tout à l'heure. Jim Kelly, l'interprète de l'inoubliable Black Belt Jones, hein, de Robert Klaus, voilà, avec cette scène hallucinante de baston dans la station de lavage. Là. Enfin, bon, bref, je ne me trompe pas de titre, hein, c'est bien ça. Hein. Ceinture noire, hein, en version française, je crois, c'est ça ?
Free the Hard Way, les démolisseurs, ouais. J'adore ce film.
Ouais, t'adores, ouais. Et justement, bah, tu on a un peu oublié, mais ces trois mecs-là, c'était des vrais stars du cinéma d'exploitation. Est-ce que tu peux... Quel regard tu portes sur ces films ? Toi, tu étais en train de nous dire que t'adorais.
Alors, déjà, les démolisseurs, j'aurais signalé qu'on n'a pas la chance de le connaître, la version complète, avec le DVD qui est sorti aux États-Unis, il est odieusement tronqué. Et il y a la vraie version qui fait une vingtaine de minutes en plus, et ça se ressent sur le DVD. Il y a justement il y a une scène un gunfight dans un car wash où on voit que c'est odieusement coupé. Et ça serait bien un jour qu'on ait la version intégrale. Pour moi, Free the Hard Way, c'est vraiment le summum de... Bah, c'est ce qui a causé la mort de la Westwatching, c'est le film de tous les excès. Il y a ils ont pris les trois acteurs les plus connus, il manque juste Pam Grier. Avec un scénario, mais c'est un scénario what the fuck, c'est un scénario de n'importe quoi, avec les nazis qui contaminent les trois circuits d'eau potable de trois grosses villes américaines avec un poison qui n'a la particularité de ne tuer que les noirs. Et donc on envoie dans chaque ville, on envoie un de ces injusticiers dans chaque ville pour combattre ce groupe de néo-nazis. Une fois que tu as fait ce genre de film, tu peux plus rien faire, tu as fait le tour. Quoi. On est parti vraiment super loin dans le délire. Et ça se prenait plus au sérieux. C'est clairement à partir de ce genre de film que il y a eu une cassure et le public s'est lassé parce que c'est parti trop loin. Et les films se répétaient dans des scénarios de plus en plus délirants. Voilà, pour moi, c'est le summum. Et on ne pouvait pas aller plus loin dans le délire que les démolisseurs se réservent. Par contre, Fred Williamson a essayé d'en faire un petit remake dans le début des années 80, c'était Well Done to Go, où il a repris ses trois acteurs et il a ajouté Richard Roundtree qui jouait Shaft. Et là, c'est donc une pure production Fred Williamson, et le film est vraiment pas bon du tout. Et on retrouve toute cette équipe dans les années 80. Au milieu des années 80, il y a Original Gangsta de Larry Cohen, avec Ron O'Neill, avec, si je me souviens bien, Bernie Cazet, Pam Grier, bien sûr.
Pourquoi, oh mon Dieu, avez-vous enlevé ce jeune garçon à sa précieuse maman ?
C'est pas très bon pour nos affaires. Tuer un gamin pour 300 malheureux dollars.
Je te soutiens pas vis-à-vis des autres.
Il voulait devenir une grande star. Il avait un plan tout comme toi.
Tu aurais dû revenir de temps en temps, Johnny. C'est vous tous qui nous avez lâchés.
C'est à vous de décider si votre quartier vaut qu'on se batte pour le défendre.
S'il s'attaque à un seul de nous, c'est comme s'il nous attaquait tous.
T'es venu pour quoi, mec ?
C'était mon fils, mec. Alors qu'est-ce que t'as à dire, Spyro ? Je vais te buter.
Il faut s'attendre à des représailles.
Tu pourrais peut-être nous aider.
Tu vas pas croire ce qu'il dit.
J'ai aucun ami, aucune famille. Je suis un homme d'affaires, moi, mon frère, c'est tout.
Voyons si on peut mettre un terme à toutes ces bêtises.
Vous plaisantez, négocier avec ces pourris.
Si le vieux ferme sa gueule, on oubliera le tout.
Vous êtes encore pire que des chiens.
Je pense que le révérend a fait son boulot.
Vous devriez rentrer à la maison et prier.
Je crois qu'il va falloir y aller.
Fred Williamson.
Parfois de devant, mec.
Jim Brown.
Je vais t'aider.
Pam Grier.
Il n'a besoin de personne.
Tu sais bien que c'est faux.
Vous aurez des ennuis si je vous fais pas de mal, mes amis le franc.
C'est nous les vrais rebelles. Je suis revenu chez moi.
Et je marche avec lui.
Alors bienvenue aux nouveaux voisins.
Original Gangstas.
C'est un film où t'as tous ces vieilles stars des années 70 qui viennent se confronter à une nouvelle génération un peu gangsta rap. Bon, c'est pas une grosse réussite non plus, mais voilà, c'était sympa pour le clin d'œil.
Oui, c'est un film sympa, mais je suis d'accord avec toi. Le film dont tu parlais à l'instant, c'est Les Quatre Justiciers qui étaient loupés de Fred Williamson, c'est ça?
Ouais,
hein, c'est vrai. c'est pas bon du tout, Les Quatre Justiciers. Mais par contre, moi, je suis comme toi, hein, j'aime beaucoup Les Démolisseurs. Hein. C'est un film qui me fait bien triper, voilà. Dont d'ailleurs, le pitch a été un peu repris pour un film récent, une sorte de parodie de la Blaxploitation, où c'est pareil, il y a des nazis, tout ça, sauf que ça donne un petit sexe au noir, je ne sais plus si tu as vu ça. Black Dynamite,
Black Dynamite.
C'est
génial.
On est d'accord. On est d'accord que ça reprend un peu le principe de Free the Hard Way, en fait.
Ouais, ils ont pris pas mal de... Ils ont été tapés dans pas mal de clichés, de gros classiques, hein, dans ce film-là. Mais ils l'ont fait intelligemment. Pour moi, c'est l'hommage à la Blaxploitation le plus réussi. Quoi. Tout ce qui s'est produit après, dans les années 90-2000, I'm Gonna Get You Sucker dans les années 80 et William Brothers.
Ces films sur lesquels on parlait de films de Blaxploitation, peuvent paraître progressistes, hein, émancipateurs même d'un certain point de vue. Mais on va écouter là tout de suite le point de vue de Fred Williamson sur le mouvement Black Lives Matter, qui est quand même un point de vue assez étonnant.
C'est une blague. Ça ne veut rien dire pour moi. Les vies noires, les vies roses, les vies violettes, toutes les vies comptent.
Vous écoutez Foxy Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street. Ce point de vue de Fred Williamson, qui est plutôt réac en fait pour celui d'une star noire, est-ce que ça t'étonne, toi ?
Non, Freddie Mason, bah, c'est un peu comme Melvin Van Peebles. Je pense que ce qui l'intéresse, lui, c'est son parcours. Et le reste, moi, j'avais interviewé Melvin Van Peebles, j'avais une même type de réaction. C'est quand j'avais demandé ce qu'il pensait du mouvement Blackspotchen, il avait dit, mais moi, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai fait mon truc. Les autres, ils ont copié sur moi et je veux même pas entendre parler. Et Fred Williamson, moi, c'est un petit peu aussi ce truc-là, c'est que bon, ouais, il dit que lui, il a fait son truc. Les autres acteurs de l'époque, ben, eux, ils n'ont pas survécu, ils n'ont pas su rebondir. Il a eu l'intelligence de rebondir, il a imposé ses conditions à Hollywood. Et donc, en fait, c'est des acteurs qui regardent leur propre parcours et qui n'ont pas envie de voir ce qui s'est fait ailleurs ou ce qui s'est fait après. Et non, je ne suis pas du tout surpris de ce type de réaction.
Et très tôt, par le hasard des coproductions, tu en as un peu parlé tout à l'heure, Fred Williamson va tourner en Italie. Hein, je pense en 1974, par exemple, il fait Crazy Joe de Carlo Lizzani. En plus, c'est un bon réal, hein, c'est un réalisateur intéressant. Et à partir de 1978, il va enchaîner les productions italiennes avec beaucoup de Castellari, Les Nouveaux Barbares, Les Guerriers du Bronx, Une Poignée de Salopards, hein, dont Tarantino va faire un vrai faux remake. En fin de compte, quand même, c'est assez rare. Hein, tu en parlais tout à l'heure, ces stars noires d'un certain cinéma d'exploitation américain qui vont travailler en Italie. C'est étonnant comme choix de la part de Williamson.
Alors, je crois qu'il y a Richard Roundtree qu'on a fait un peu, si je ne dis pas
de conneries. Oui, aussi, ouais.
En fait, les Italiens, ils ont récupéré beaucoup d'acteurs, soit des noirs, des blancs, qui étaient en leur carrière était en chute libre, quoi. C'était une manière de continuer à faire des films. Beaucoup sont allés, bon, pour continuer à payer leurs impôts. Fred Williamson, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus pour lui, son truc, c'était de faire le plus de films possible. Donc il y avait, à partir du moment où les portes d'Hollywood se sont fermées, les Italiens ont ouvert les portes en grand. Bon, après, je suis pas un grand fan de cette période de Fred Williamson. J'aime bien le Inglourious Bastard qu'il a fait dans la seconde partie des années 70, mais après tout ce qu'il a fait début des années 80, je trouve ça hyper cheap ce qu'il a fait en Italie.
Tous ces films post-apocalyptiques. Bon, ouais, on va l'écouter, Fred Williamson. Il va nous parler de son travail avec Castellari, en particulier sur les guerriers du Bronx.
Vous avez travaillé avec des réalisateurs italiens comme Fulci, Castellari, Tessari. C'était une grande expérience pour moi. J'y retourne dès que possible. D'ailleurs, mon prochain film, un film d'action de gangster, sera à Rome. Dans Les guerriers du Bronx, vous êtes avec des motards qui sont de véritables Hells Angels. Comment avez-vous travaillé avec eux ? Je suis né dans les ghettos de Chicago. J'étais un voyou à l'époque. Je connaissais tous les gangsters du coin et ils voulaient travailler dans mon film par respect pour moi. Ils me considéraient comme une forte personnalité, pas un vendu. Ils faisaient tout ce qu'on leur demandait de faire. Les Hells Angels nous ont vraiment beaucoup aidés dans les ghettos. J'ai tous mes amis noirs dans ces ghettos. Ça s'est bien passé.
Fred Williamson également, bon, on a dit qu'il était parti tourner un peu en Italie quelques temps, mais il n'a jamais non plus vraiment quitté totalement quitté les USA. Et on peut le voir, par exemple, dans un film que je trouve excellent, c'est Vigilante, de William Lustig, en 83. On peut le voir aussi dans Une nuit en enfer, de Robert Rodriguez, en 96. En fin de compte, un peu comme Richard Roundtree, dont tu parlais actuellement, il reste très populaire aux USA. Comment t'expliques sa grande popularité parce que d'autres stars en fait, de la Blaxploitation sont tombées dans l'oubli. Mais lui, non, lui, il perdure. Hein, voilà, il est toujours là. Il fait des caméos de temps en temps dans des films. Aujourd'hui, il tourne moins. Hein, depuis le milieu des années 2000, il est un peu plus reposé. Il fait un peu moins de choses. Mais il est quand même très actif parce qu'il est quand même né en 35. Quoi, donc, il est encore très présent, je trouve. On sent que les réalisateurs, beaucoup de cinéphiles ont grandi avec lui et qu'ils aiment bien lui rendre hommage dans la distribution de leurs films.
Alors, je suis en contact avec pas mal d'Américains dans le cadre de mes activités. Je chatte pas mal avec des Américains, des gens qui ont connu cette époque, qui allaient voir les films dans les salles et qui me disaient, ça m'avait un petit peu étonné, que sa cote avait vachement chuté auprès des fans depuis qu'il soutenait Trump. En fait, il a fait un gros buzz pour soutenir la campagne de Trump et ça l'a fait chuter auprès des Noirs. faut savoir que les fans, la grosse partie des fans de Blaxploitation aux États-Unis, c'est les Noirs, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est plutôt les Blancs. Et je pense qu'aujourd'hui, sa cote, il a plus la cote en Europe qu'aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vient dans pas mal de festivals en Europe en ce moment. Donc il a une cote avec bon, des pointures comme Tarantino. Ça lui permet de continuer à faire des apparitions. Mais le fan de base, je pense que ça, bon, son image en a pris un coup quand même avec les histoires avec Trump. Voilà.
Ah, et en même temps, qu'est-ce qu'il est allé se fourvoyer ? Bon, en même temps, on comprend mieux quand il nous répond pourquoi. Tout le mal qu'il pense du mouvement Black Lives Matter, puisqu'effectivement, il va soutenir Trump. Hein, donc, il y a une logique dans sa démarche politique. On va écouter Fred Williamson, là, qui nous parle de sa relation avec Tarantino, évidemment.
Tarantino est un voleur. Il vous le dira lui-même. Il a regardé tous les films des années 70, surtout les miens. Il est devenu fan de la soi-disant Blaxploitation, ce qui ne veut rien dire en passant, car personne n'était exploité à ce que j'en sais. Quand il a commencé à faire des films, il a fait comme les anciens films d'action.
Écoutez Culture Prohibée. In my heart, a deep and dark and lonely,
what is here and waits for after dark, after dark, after
Pour conclure un peu sur, sur Fred Williamson, j'ai envie de te poser une question en somme toute assez basique, mais enfin, si tu devais en retenir qu'un ou deux de Fred Williamson, lesquels sont pour toi tes préférés et puis qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas Fred Williamson, justement pour débuter, voilà, pour regarder un film avec ou de Fred Williamson? Je te laisse le choix.
Avant de conseiller un film, je conseillerais un... On ne peut pas appeler ça un documentaire, c'est un truc que Arte avait diffusé que j'ai trouvé vraiment très très bien. J'ai oublié le titre, c'était Une nuit avec, je ne sais plus le titre exact, mais dedans il y avait en fait, ça se passait en Italie, il y avait Fred Williamson qui retrouvait Franco Nero, Castellari et Barbara Boucher. Et ça durait à peu près une heure, j'ai trouvé ce programme absolument génial.
Bah, c'est Une nuit avec, c'est le bon titre ce que tu as dit, c'était Une nuit avec, bon, c'était un concept ça. Où des anciens potes se retrouvaient le temps d'une nuit. Ouais.
Alors, je conseille de visionner ce truc-là. Il y a un petit côté, je sais pas, c'est un petit côté cri d'amour à une période révolue. Et voilà, pour moi, sinon, les films cultes de Fred Williamson, il y a Hell Up in Harlem. Celui-là, je l'adore. C'est du grand n'importe quoi. C'est la suite de Black César. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Fred Williamson, il était parti à Hong Kong tourner Zatman Bolt. Une grosse production Universal, je crois que c'est une de ses plus grosses productions des années 70. Et du coup, Cohen a refourgué toutes les scènes qui avaient été refusées dans Black César, mais comme Fred Williamson n'était pas sur place, ils ont utilisé une doublure. Donc dans ce film-là, on voit pas mal de scènes où Dodo, l'acteur, n'est pas Fred Williamson, ça se voit un petit peu. Mais sinon, le film est absolument grandiose. Il n'y a aucun scénario, c'est du gunfight au kilomètre. C'est vraiment un pur produit pour fans de cinéma bis. Il faut l'enchaîner, il faut avoir vu, faut le voir dans la foulée de Black César. Il faut faire une soirée complète de 3 heures. Donc ça, je le conseille. Je conseille le film, le seul film où il joue un rôle de méchant toute sa carrière. Je pense qu'après, il a dû refuser d'en faire parce que c'était justement, c'était par rapport à ses exigences, il voulait être le héros. C'est Les Durs, avec Lino Ventura et Isaac Hayes.
Film de Tessari, ouais.
J'adore Black Eye, comme je te disais, ce film de Jack Arnold qui est vraiment fait à l'ancienne, où justement il n'est pas dans la frime. Je crois que c'est un des films des années 70 où il n'est pas dans la frime, il ne fait pas d'excès. Et il y a un petit peu d'humour, il la joue finement. Je conseille Les Démolisseurs, dont on a parlé tout à l'heure, parce que c'est du gros n'importe quoi. Et. C'est le film de tous les excès. Je crois qu'on a à peu près cité les principaux. Et puis, s'il faut en voir un qu'il a réalisé lui-même, je pense que celui qui tient mieux la route, c'est Johnny Barrows, qui était sorti en France, qui est un des plus connus dans tout ce qu'il a réalisé. Et pour les années 80, je conseille Vigilante de Lustig, film d'autodéfense. Il n'est pas mis en avant, il fait partie d'une équipe en fait. C'est un film qui sent vraiment bien, qui sent bon les années 80. Je pense que les fans de films comme les Warriors, ces trucs comme ça, ils peuvent apprécier ce film. Quoi.
On est d'accord. Excellent film de Lustig. Je rappelle que. Le Parrain de Harlem et Casse dans la ville, qui était le titre français de la suite du Parrain de Harlem, sont deux films de Larry Cohen et je suis d'accord avec toi, ils sont excellents, ils sont dispo en DVD à pas cher en plus chez MGM, et c'est vraiment du tout bon. Et ben écoute, nous
et pour un petit coup de rigolade aussi, je conseille un épisode de Star Trek où c'est les débuts de sa carrière où il fait un martien et si je me rappelle bien, il y a une couche de fond de teint pas possible sur le visage.
Anka, le titre de l'épisode. Ah non, c'est le personnage. Il joue Anka.
Ouais, ça doit être ça. Alors, je me souviens qu'il était grimé de façon assez ridicule.
Ah ben écoute, je n'ai pas eu le plaisir de voir cet épisode. Tu me donnes très envie de voir cet épisode de Star Trek, du coup. Je pense qu'il est facile à trouver sur le net. Je vais essayer de chercher. Ils doivent bien avoir compilé quelque part ces apparitions, je pense. Ça doit être assez...
Il n'a pas fait trop d'apparitions dans les séries. Il est dans ma série policière préférée, Police Story. Pour moi qui est la grande série policière des années 70, il fait quelques apparitions dans celle-là, d'ailleurs Jim Brown apparaît aussi. Et dans cette série, je fais un petit aparté, je la conseille, j'en profite dans le cadre de l'émission, c'est qu'il y a il y a plusieurs épisodes d'Exploitation, dont des téléfilms carrément dans cette série, il y avait des épisodes courts et des épisodes longs, et il y a quelques épisodes longs qui sont vraiment purement Blaxploitation, alors pas forcément avec Fred Williamson dedans, mais il y a des épisodes qui sont du niveau de certains films
d'exploitation. Bah on va lancer les recherches de pépites pour nos auditrices et auditeurs Polystory. Et puis, écoute, en tout cas, nous on te remercie beaucoup. On rappelle que Foxy Bronx Soul Street est toujours disponible sur notre site lesfilmsdelagorgone.fr, et puis il est disponible aussi dans toutes les bonnes librairies, les bonnes échoppes, comme l'on dit. Est-ce qu'on peut attendre bientôt un prochain numéro de cette revue? Est-ce que tu travailles sur autre chose actuellement?
Je travaille plutôt sur des petits projets personnels pour l'instant. De catalogue de matériel Blaxploitation, mais j'ai bien l'impression de sortir un numéro, mais pas dans les mois qui viennent.
D'accord. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup pour ta participation. En plus, t'es malade et tout, donc c'est super sympa. et puis donc, tu seras en guest dans la même production avec Production Culture Prohibée avec Fred Williamson et Foxy Bronx. Ça rigole pas quand même. Tout cela dans la même émission. C'est génial, n'est-ce pas?
Ouais. Voilà. Ça me rappelle ces disques des années 70 qu'on trouve encore sur le net. C'est des disques promo où t'as la star qui vient parler. Donc t'as Fred Williamson ou Jim Brown qui viennent parler. Et il y a un blanc. Et c'est le mec qui reçoit le disque qui fait les questions, en fait. Et donc, ils ont envoyé ça à tous les exploitants de salles de cinéma. Et donc, tu recevais le petit texte sur papier. Et c'est toi qui parles, qui fais les questions, et après lui-même, qui fait.
C'est génial. Bon, alors, les copains, là, avant de conclure cette émission, si je vous dis Fred Williamson, qu'est-ce que vous me dites?
Moi, je pense à Vigilante de William Lustig, évidemment. Après, j'ai vu quelques nanars de ou avec lui. Il y a notamment un remake de Cobra qui s'appelle Black Cobra. Et il y a trois films quand même. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait deux suites, parce que déjà, le premier, il faut se le farcir. Hein. C'est long et chiant. Puis il y a aussi, comme dans Halloween 2, je dis ça parce que j'ai revu Halloween 2, il y a une attaque dans un hôpital, apparemment il n'y a pas de patients. Et il n'y a pas non plus beaucoup d'infirmières et de docteurs. Encore moins d'infirmières que dans Halloween 2. Mais à un moment, il y a une scène d'action dans un hôpital, il n'y a personne. Et il n'y a pas d'électricité non plus, visiblement. Donc, alors les malades sont tous morts, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et il y a aussi un western qui s'appelle Joshua, je crois qu'il l'a réalisé celui-là. Alors, c'est un mec, on lui tue sa mère, il revient de la guerre de sécession, puis il n'est pas content, alors évidemment, il poursuit les méchants, il met quand même une heure et demie à les tuer, quoi. Au lieu de les tuer tout d'un coup, il essaye de faire comme Mario Bava, de le faire avec une certaine finesse, une certaine...
Un certain sadisme.
Un certain sadisme, mais bon, le problème c'est que nous, on s'est endormis avant.
Bah, moi, à peu près pareil, Vigilante et puis Nuit en Enfer, mais je rebondis sur ta question, pourquoi Freddy Williamson, on le revoit souvent, quoi que ce soit, mais je crois que par contre, c'est parce qu'il a un certain charisme, l'air de rien, Fred Williamson. Il passe très bien la caméra, et je pense que c'est surtout pour ça, mais c'était incroyable de savoir que c'est lui qui a forcé les portes, et c'est vrai que je me faisais la réflexion, la Blaxploitation, c'est un genre qui a été créé par des producteurs blancs pour un public noir. Donc déjà, à la base, c'était peut-être pas un genre qui était amené à survivre dans toutes les productions hollywoodiennes.
Bah merci à vous, les amis. On remercie encore Foxy Bronx pour sa participation. On remercie l'homme au cigare, Fred Williamson, évidemment.
Eh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je commence à en avoir jusqu'ici. On en est... à 40 meurtres par jour dans nos rues. Il y a plus de 2 millions d'armes illégales dans cette ville, les mecs. Il y a de quoi envahir un pays avec cet armement. Ils tirent sur les flics de cette ville comme sur des soldats de plomb. Alors merde. Vous prenez tous le métro, non? Combien de temps allons-nous supporter qu'on nous agresse? Combien de verrous allons-nous mettre à nos portes? Nous n'avons plus de police, ni de procureur,
ni de tribunal, ni de prison. Je veux dire que tout ça, c'est fini. Il y a deux poids et deux mesures. Maintenant, on est une statistique. Alors moi, je vous dis, quand on n'ose plus descendre acheter un paquet de cigarettes le soir, parce qu'on sait que la rue appartient aux loupards et aux voyous dès que la nuit tombe, et que les autorités ne peuvent pas nous protéger, voilà ce que je vous dis, les mecs. Vous avez une obligation morale, le droit de préserver vous-même vos vies. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, ou essayer de vivre à nouveau comme des hommes. C'est notre Waterloo, mes amis. Si vous voulez retrouver votre ville, il faut la prendre. Compris ? La prendre !
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret, dit l'homme mystère, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.